Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 29 juillet 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, la Centrafrique, les anti-Balaka annoncent la fin de toute opération militaire.
Je demande aux frères d'armes Faka anti-Balaka de déposer les armes et de regagner les casernes sans exception.
Un responsable des anti-Balaka. Entre le choléra au Cameroun et l'Ebola en Afrique de l'Ouest, les crises sanitaires défraient la chronique sur le continent.
Le Libéria a annoncé la fermeture d'une partie de ses frontières. En outre, les tests de dépistage de l'Ebola sont obligatoires avant de quitter ou d'entrer au Libéria.
En Israël, Benjamin Netanyahou prévoit une longue campagne à Gaza où les attaques contre le Hamas ont fait une centaine de morts aujourd'hui.
Néanmoins, Israël se dit prêt à un cessez-le-feu. Alors que le monde fête la fin du mois du Ramadan, nous ferons un tour au Mali où cette fête a été célébrée dans la fraternité entre chrétiens et musulmans, nous dit Kassim Traoré.
Nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais avant le journal.
République centrafricaine, suite à l'accord signé la semaine dernière à Brazzaville, la milice anti-Balaka a annoncé ce mardi la fin de toute opération militaire. Le point avec Idriss Fall.
Cette décision concerne en premier lieu les soldats des ex-Faka qui avaient intégré les rangs des miliciens, puis les civils anti-Balaka. Capitaine Gilbert Kamezoulaye, un des leaders des anti-Balaka.
Nous pensons qu'il est impérieux de tout mettre en œuvre pour cela. Je demande aux frères d'armes Faka anti-Balaka de déposer les armes et de regagner les casernes sans exception. Aux patriotes civils anti-Balaka, je leur demande de se regrouper pour leur enregistrement en attendant le processus de DDR.
Aussi, la milice s'engage à ne plus commettre des exactions sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, la situation est calme à l'intérieur du pays. Aucune violence n'a été signalée depuis l'accord de cessation des hostilités conclu la semaine dernière à Brazzaville.
Plus de 200 personnes ont été tuées en moins d'un mois dans le nord du Cameroun suite à une épidémie de choléra. Lionel Gaïma.
Les zones les plus touchées sont Logone, Chari et Mayo-Sava dans l'extrême nord du Cameroun. L'accès à l'eau potable y fait cruellement défaut. Certaines victimes sont des réfugiés qui ont fui les attaques de Boko Haram. Le docteur Rebecca Jao, responsable de santé, a affirmé qu'il y a plus de 100 morts dans les hôpitaux et plus d'une centaine en dehors des hôpitaux. Les moyens médicaux sont insuffisants à cause du nombre élevé de malades, même les unités d'urgence mises en place par le gouvernement. La Croix-Rouge craint une répétition de l'épidémie de 2010, où il avait été recensé plus de 10 000 cas et au moins 4 000 morts.
Le Libéria a annoncé la fermeture d'une partie de ses frontières pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de fièvre Ebola qui a fait plus de 670 morts dans trois pays, avec le premier cas confirmé au Nigeria, Sarah Diaby.
En Afrique de l'Ouest, les autorités sanitaires essaient d'identifier les passagers qui ont été en contact avec Patrice Sawyer. Ce fonctionnaire libérien avait emprunté un vol qui a fait escale au Ghana, a changé d'avion au Togo avant d'atterrir à Lagos. Il est décédé vendredi après avoir été mis en quarantaine dès son arrivée dans la capitale économique nigériane. La compagnie Afrique a suspendu ses liaisons avec le Libéria et la Sierra Leone. Le Libéria a annoncé la fermeture d'une partie de ses frontières. En outre, selon la présidente Hélène Johnson-Sirleaf, les tests de dépistage de l'Ebola sont obligatoires avant de quitter ou d'entrer au Libéria. Les rassemblements publics y sont également interdits jusqu'à nouvel ordre. L'épidémie de fièvre Ebola s'est déclarée en Guinée au début de l'année avant d'affecter le Libéria, puis la Sierra Leone. Selon l'OMS, au 23 juillet, plus de 1 200 cas ont été recensés, dont 672 mortels.
Un procès très attendu au Sénégal. Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, sera jugé à partir de jeudi à Dakar. Accusé d'enrichissement illicite à hauteur de 178 millions d'euros, Karim Wade est en détention préventive depuis 15 mois. Les faits qui lui sont reprochés remontent à l'époque où il était ministre, du temps où son père était à la présidence.
Dans le nord du Mali, un ancien responsable du groupe islamiste Moujaou a été arrêté par les militaires français de l'opération Barkhane. C'est ce qu'indique l'agence France-Presse, citant une source proche du gouvernement.
La Libye attend l'aide étrangère pour venir à bout de l'incendie qui ravage un important dépôt de carburant à Tripoli suite à de violents combats entre milices rivales. Le feu fait peser de graves menaces sur la capitale. Jean-Roger Billon.
Face à l'impuissance des pompiers libyens à maîtriser le feu, le gouvernement a fait appel à l'aide de pays étrangers. D'après l'AFP, l'Italie doit envoyer 7 avions et des équipes techniques à une date non précisée à condition que cessent les combats. La France a confirmé avoir reçu une demande d'aide, mais souligne que les violences rendent très difficile l'accès à la zone concernée. Deux immenses réservoirs d'hydrocarbures étaient toujours en feu ce mardi. Ce dépôt de stockage contient plus de 90 millions de litres de carburant et une cuve de gaz ménager. Les autorités ont annoncé que l'incendie était hors de contrôle et craignent une catastrophe humaine et environnementale. Face à l'anarchie en Libye, la France a annoncé son intention d'évacuer ses ressortissants. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Portugal et les Pays-Bas ont évacué leur personnel diplomatique. Des combats ont également lieu à Benghazi, dans l'est du pays, où un avion militaire s'est écrasé. L'appareil était engagé aux côtés d'un général dissident Khalifa Haftar qui s'oppose à des groupes islamistes.
Violence intercommunautaire à Berriane, dans le sud de l'Algérie. Une trentaine de personnes ont été blessées la nuit passée. Berriane est située dans la vallée du Mzab, où les communautés berbères mozabites s'affrontent avec la communauté arabe Chamba. Depuis décembre, les forces de l'ordre ont réussi à disperser les deux camps à coups de gaz lacrymogène.
En République démocratique du Congo, le projet de révision de la Constitution fait débat. Trois partis d'opposition appellent les Congolais à un rassemblement lundi prochain à Kinshasa contre toute révision qui permettrait au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat.
Nous restons en RDC. L'opposant Eugène Diomi Djangala doit comparaître demain selon un avocat de la défense. Il est convoqué au tribunal de grande instance de Kinshasa pour une affaire de viol sur mineur, un crime qu'il a toujours nié. Les deux plaignantes ont déjà obtenu sa condamnation au pénal à 10 ans de prison et réclament 20 millions de dollars à titre de dommages et intérêts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 100 personnes ont été tuées par les tirs de l'aviation et des blindés israéliens, annonce des secours des sources médicales de la bande de Gaza. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à ses concitoyens de se tenir prêts à une longue campagne. Michel Joseph.
Après les raids nocturnes les plus intenses de ces trois dernières semaines sur Gaza, le bilan s'établit maintenant à plus de 1100 morts, des civils pour la plupart. Côté israélien, 53 soldats et 3 civils ont été tués depuis le 8 juillet. L'unique centrale électrique du territoire, qui ne fournissait que 3 heures d'électricité par jour, a été bombardée. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les opérations se poursuivront jusqu'à la destruction du réseau de tunnels utilisé par le Hamas pour mener ces attaques. Les appels répétés de la communauté internationale pour un cessez-le-feu n'ont eu jusque-là aucun effet. De son côté, l'ayatollah Ali Khamenei, le leader suprême iranien, a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza.
Un cousin du président afghan Hamid Karzai, Hasmat Karzai, est mort dans un attentat suicide dans la province méridionale de Kandahar, annoncent les autorités afghanes. Hasmat Karzai était conseiller et chef de campagne du candidat à la présidence Ashraf Ghani. Il recevait les invités chez lui à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr aujourd'hui lorsqu'il a été tué. L'attentat n'a pas encore été revendiqué.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé la Russie à exercer son influence considérable auprès des séparatistes dans l'est de l'Ukraine pour que le site du crash de l'avion malaisien soit sécurisé. Cependant, ajoute M. Kerry, rien n'indique que Moscou cherche à mettre fin à la violence et au bain de sang dans la région. Des preuves existent également, selon le chef de la diplomatie américaine, sur des attaques à la roquette et des tirs d'artillerie contre l'Ukraine en provenance du territoire russe. Une accusation démentie par les autorités russes.
Il faut signaler que le président américain Barack Obama est en train maintenant même de faire une déclaration concernant la situation en Ukraine. Nous y reviendrons dans l'une de nos prochaines émissions. En Chine, après plusieurs mois de spéculation, le gouvernement a officiellement annoncé l'ouverture d'une enquête pour corruption contre Zhu Yongkang. Il était jusqu'à 2012 ancien responsable de la sécurité et membre du Politburo, donc l'un des plus hauts dirigeants du pays. Selon l'agence Chine Nouvelle, Zhu aurait commis une violation disciplinaire grave. Aucun autre détail n'a été fourni pour le moment.
Des organisations de défense des droits de l'homme et le département d'État américain ont renouvelé leur appel au gouvernement iranien en faveur de la libération immédiate de 4 personnes arrêtées la semaine dernière. Parmi ces détenus figurent 3 journalistes, dont le correspondant du Washington Post, Jason Rezaian, qui a la double citoyenneté américaine et iranienne. Voilà pour le journal. Chez Rubin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Restez à l'écoute pour la partie magazine de notre émission. La semaine prochaine s'ouvrira à Washington le sommet États-Unis-Afrique avec la présence d'une 40aine de chefs d'État et de gouvernement.
Barack Obama et ses interlocuteurs vont notamment parler de sécurité sur le continent. État des lieux des différentes menaces avec Nicolas Pineau.
Oui, la menace principale pour la sécurité, ce sont bien sûr les groupes terroristes qui opèrent sur le continent. Al-Shabaab, Acmi, Mujao ou encore Boko Haram, ces groupes s'attaquent en majorité aux populations civiles. Et malgré les efforts militaires pour les contrer, force est de constater qu'ils continuent de recruter au sein de la jeunesse africaine. Au Nigeria, les attentats de Boko Haram sont presque quotidiens, une situation qui perdurera tant que les gouvernants ne prennent pas en compte les aspirations de la jeunesse. C'est ce que pense Oluwakemi Okenyodo, directrice exécutive de la Clean Foundation.
The young people are not satisfied with the status quo. It's very obvious, you know, and
c'est évident, les jeunes ne sont pas satisfaits par le statu quo. Ils requièrent le changement, ils demandent le changement à différents niveaux. Je ne suis pas sûre que le gouvernement les prenne vraiment au sérieux. Ils doivent répondre urgemment à ces demandes des jeunes.
Autre danger pour l'Afrique, le trafic de drogue. Contrairement aux idées reçues, on fabrique, on vend et consomme sur place de la drogue. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, estime à 1,25 milliard de dollars le montant du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest, soit le double des budgets de la Sierra Leone et du Libéria. Lansana Gberie est le co-auteur du dernier rapport de la Commission ouest-africaine sur les drogues.
It is a massive problem. In fact, West Africa is a main consumer of marijuana. Some countries in West Africa.
C'est un problème massif. L'Afrique de l'Ouest est l'une des principales consommatrices de marijuana. On trouve des laboratoires pour fabriquer des drogues synthétiques en Afrique de l'Ouest. Il y en a au Nigeria, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. L'idée que l'Afrique de l'Ouest est victime du trafic mondial est fausse. Elle y participe.
Les côtes africaines sont aussi le terrain de jeu des pirates qui lorgnent sur le pétrole et autres richesses. Le Bureau maritime international sur la piraterie a recensé pour 2014 133 cas, un chiffre en baisse partout dans le monde, sauf dans le golfe de Guinée. Loïc Mouduma est commandant de la marine gabonaise et expert de la CEAC.
Aujourd'hui, les cibles potentielles des pirates, c'est plutôt les bateaux pétroliers, transporteurs de brut ou de produits déjà raffinés. Ils attaquent ces navires, ils les déroutent. Ils siphonnent tout le produit et ils le revendent au marché noir. On ne peut pas dire que la menace est totalement éradiquée. Actuellement, les États ne sont pas du tout présents en mer. On a toujours un problème de moyens logistiques.
Le trafic d'êtres humains ou encore la contrefaçon de médicaments sont aussi des menaces pour les populations africaines. Autant de sujets que Barack Obama et ses interlocuteurs aborderont la semaine prochaine.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la rencontre de Barack Obama avec de jeunes leaders africains à Washington dans le cadre de son projet Young African Leaders Initiative. Ces jeunes pourront-ils combler l'écart entre les populations africaines et leurs élites? Vos questions et commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique ou à fr@v1news.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Amnesty International accuse le parti au pouvoir au Burundi de mener une campagne musclée d'intimidation contre les détracteurs du régime, alors que l'organisation de jeunes proches du pouvoir commet des crimes en toute impunité à l'approche des élections prévues en 2015.
Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG de défense des droits de l'homme détaille la répression orchestrée, selon elle, par le parti au pouvoir, c'est-à-dire le CNDD-FDD. Camille Gros-Didier a joint Tom Gibson. Il est chercheur à Amnesty International.
On a vu que certains groupes, notamment la société civile, le barreau, les médias, ne sont pas permis à tenir les réunions ou les manifestations. Les gens ne sont pas permis de s'exprimer à propos des questions importantes concernant les droits de la personne. Et deuxièmement, on a vu que l'organisation de jeunesse qui s'appelle une bonne en Corée prend un rôle de plus en plus fort en tant que maintenir la sécurité. Mais en même temps, on a vu que ces groupes commettent les abus des droits de la personne. Et on a vu que ces groupes ciblent notamment certains membres du parti opposant.
Cette organisation de jeunesse du CNDD-FDD se livre non seulement à des actes d'intimidation et de harcèlement selon Amnesty, mais ils vont jusqu'à attaquer et parfois tuer des opposants politiques en toute impunité.
Voilà la situation certainement à l'extérieur de Bujumbura ou Provence, comme le Burundi s'appelle les collines. On a vu que les groupes s'opèrent d'une manière à l'extérieur de la loi. Ça veut dire qu'ils peuvent commettre certains abus des droits de l'homme en toute impunité et que le gouvernement ne réagit pas très bien aux allégations. Ça veut dire que pendant les réunions qu'Amnesty International a tenues avec certains responsables, ils nient que les Mbonera Corée sont une telle force. On a vu que certains membres de Mbonera Corée s'échappent, la justice aussi, et on a vu que certains dossiers impliquent les Mbonera Corée qui attaquent les membres des partis d'opposition. Et ça, c'est une situation très risquante en 2014, l'année avant les élections de 2015.
Tom Gibson, chercheur à Amnesty International.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
République démocratique du Congo, les députés nationaux et provinciaux du Nord-Kivu sont en vacances. C'est une occasion pour eux de rendre compte à leurs électeurs et palper du doigt les difficultés de la population. Quelques habitants de Goma déplorent leur inaction depuis qu'ils sont arrivés, tandis que dans la partie nord de la province, le séjour des députés provinciaux est salué par quelques leaders locaux. Reportage de Primo Pascal Roudaïgua.
Nous avons baladé le micro dans la ville de Goma. Quelques habitants ont réagi par rapport à ces vacances parlementaires de leurs élus.
Les députés nationaux et provinciaux sont dans les vacances parlementaires. C'est très bien maintenant pour qu'ils arrivent chez nous, pour que la population puisse normalement s'exprimer auprès d'eux.
Il n'y a pas un impact positif parce qu'ils ne se sont pas fait voir et nous ne savons pas s'ils sont sur le terrain parce qu'on ne les voit même pas.
Les députés nationaux venus de Kinshasa ont préféré s'entretenir d'abord avec les autorités locales avant de rencontrer leurs électeurs. Élisée Munembwe, élu du territoire de Walikale au Nord Kivu.
Nous sommes les élus au niveau national de la province du Nord Kivu. Alors, on devait échanger avec le gouverneur sur les questions qui concernent la province. Toutes les questions, nous avons passé en revue les questions sécuritaires, les questions de développement, les questions budgétaires. Toutes les questions, on les a passées en revue avec notre gouverneur.
Quelques députés provinciaux sont, quant à eux, dans la partie nord de la province, à Beni et à Butembo, pour vulgariser les activités parlementaires auprès des électeurs. Cette initiative a été saluée par quelques leaders locaux. Monseigneur Melchizedek Sikuli est l'évêque du diocèse de Butembo-Beni.
Je suis content qu'ils viennent sur le terrain et rencontrer les gens et les écouter. Au moins, c'est qu'ils vont les notabilités ou la société civile. Et c'est bien qu'ils puissent attendre ce qu'on vit et les problèmes qu'on affronte chaque jour. Et que cela puisse constituer pour eux de matière qu'ils auront à traiter dans le niveau de l'Assemblée.
Depuis Goma, Primo Pascal Rutahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Les Maliens souhaitent le retour de la paix et de la stabilité dans leur pays. C'est ce qui ressort des prières et vœux formulés lors de la fête de Ramadan, une fête célébrée dans la fraternité religieuse entre chrétiens et musulmans, Morgane.
L'archevêque de Bamako a partagé le repas de rupture du jeûne avec les leaders musulmans. Monseigneur Jean Zerbo est à la table avec les imams Mahmoud Diko, Ousmane Chérif, Madani Aïdara, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Kassim Traoré revient sur la célébration de la fête du Ramadan au Mali. Il est notre correspondant à Bamako.
Le Mali a célébré la fête de Ramadan dans le calme et la sérénité. Comme à Bamako, l'atmosphère était la même à Tombouctou, où l'imam de la ville s'est penché sur la rareté de la pluie.
La campagne est très compromise, donc il va falloir que les fidèles se mobilisent pour organiser des séances de prière dans toutes les mosquées en faveur d'une très bonne pluviométrie. On place ça sous le signe de la réconciliation, sous le signe de la paix, de la tolérance et de l'acceptation de l'un et de l'autre.
Nous fondons notre espoir sur les négociations qui sont en cours en Algérie pour une issue favorable et durable.
L'événement de cette fête de Ramadan est le partage du repas de rupture auquel l'archevêque de Bamako a participé aux côtés des imams. Jean Zerbo, archevêque de Bamako.
Nous, quand la fête se prépare, on partage. Est-ce que ce partage est un signe de grande fraternité? C'est un signe pour dire que les chrétiens et les musulmans vivent vraiment en vraie fraternité au Mali. Et je crois que ce qui nous est arrivé serait une tentative pour justement porter atteinte à cette fraternité-là. Ce que nous avons vécu ce soir justement est un signe fort de renforcement de cette fraternité.
Les dignitaires musulmans du Mali n'ont pas été surpris par ces gestes, à l'image du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Diko.
Le Mali dans lequel aujourd'hui moi j'ai partagé la table avec Monseigneur Jean Zerbo pour la rupture du jeûne du mois de Ramadan. C'est significatif, ça vaut ce que ça vaut comme symbole, comme message. C'est ce que nous voulons pour ce pays, qu'on se mette ensemble, nous partageons l'essentiel qui est notre pays.
Les chefs de l'État qui a participé à cette cérémonie de rupture des jeûnes n'a pas caché sa satisfaction.
Le mois sacré de Ramadan dont nous venons de célébrer la clôture est un signe heureux qui intervient juste au moment où des signes d'apaisement par rapport au septentrion du Mali se dessinent. Que de bienfaits, que de bienveillance à l'endroit de ce peuple du Mali, à l'endroit de ce pays béni que nous avons eu en héritage, que nous avons devoir et mission de tenir tout en haut parmi les nations qui comptent.
Lors de la célébration de la fête du Ramadan, beaucoup de prières et de bénédictions ont été dites pour le Mali. Les imams ont souhaité une gestion pacifique de la crise au Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, chez Rubin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place maintenant au sport avec ce soir en studio Jacques Aristide Tijac. Salut, comment ça va?
Tijac Tigavino-Ross.
Ça va. Nous allons parler basket pour commencer. Le championnat de la NBA, donc basket nord-américain, la justice autorise la vente des Los Angeles Clippers.
Un juge californien a ordonné la vente du club des Los Angeles Clippers à l'ancien dirigeant de Microsoft, Steve Ballmer, pour 2 milliards de dollars, donnant tort au propriétaire Donald Sterling qui tentait de bloquer la vente. Sterling, vous le savez, a été exclu de la NBA pour des propos racistes. Il avait d'abord donné son accord à la vente avant de se rétracter fin mai. Il a déjà déposé une autre plainte pour empêcher la transaction. Affaire à suivre.
Football, un joueur africain évoluant en Europe, de nouveau transféré.
L'international malien Cheikh Diarra repart en prêt pour rejoindre cette fois-ci l'AJ Auxerre avec option d'achat. La saison dernière déjà, le jeune attaquant de Rennes avait été prêté à Istres. Diarra compte 2 buts en 11 matchs avec le Mali.
Et un Iranien, Jacques, chez les Qataris?
Oui, l'international Ashkan Dejaga a confirmé ce mardi son départ définitif pour le club d'Al Arabi au Qatar. L'attaquant iranien évoluait en Premier League à Fulham en Angleterre, après avoir explosé en Bundesliga à Wolfsburg. La saison dernière, toutefois, il n'a pas réussi à sauver Fulham de la relégation, mais laisse un excellent souvenir au club londonien.
Et on se rend en Écosse pour parler des Jeux du Commonwealth. Un Jamaïcain et une Africaine en or dans l'épreuve reine.
Eh bien, en l'absence d'Usain Bolt, évidemment, qui soigne un pied blessé, Kemar Bailey-Cole a donné à la Jamaïque sa 3e médaille d'or consécutive du 100 mètres à ces Jeux, où la Nigériane Blessing Okak-Barré a remporté le titre chez les dames. Record des Jeux à l'appui, elle s'est imposée en 10 secondes, 85 centièmes, loin devant les deux Jamaïcaines, Veronica Campbell-Brown et Karen Stewart.
Et il faut dire, Jacques, que Kemar Bailey-Cole est le compagnon d'entraînement d'Usain Bolt.
Oui, et Usain Bolt qui a évidemment, il est allé sur Twitter pour féliciter son ami.
Voilà, Jacques Aristide pour les sports.
Roger Muntou est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgan, salut Gabi. Célèbre pour ses tubes So Yesterday, Wake Up ou Beat of My Heart, Hilary Duff est de retour après une pause musicale de 7 ans. Une bonne nouvelle pour les fans de celle qui n'a publié d'album depuis Dignity en 2007. Durant 7 ans, la chanteuse a mis sa carrière de pop star en stand-by pour se focaliser sur sa vie de mère, tout en développant des projets humanitaires et les apparitions à la télé et au cinéma. On l'écoute ce soir dans Anywhere But Here.
When I'm in a crowd, or on an island by myself, silent or too loud, wishing I was somewhere else. And I can't believe you hit me fast and hard when you turn to me and say, never change the way you are. Trying to catch your eye, things will never look the same. Now I can't deny, you're the moth and I'm the flame. There I go again, I should walk before I run. How can I explain? I can't stop what you've begun. I'm falling through the door, flying across the floor.
Across the floor.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Dorcil.
À demain.